Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a vu précédemment les différents symboles autour de l'Esprit-Saint et à partir du numéro 702 du catéchisme de l'Église catholique, il est question de l'Esprit-Saint, de la manière dont il est révélé petit à petit. Et il semble que l'Esprit-Saint soit déjà présent au tout début de la création.
Oui, l'Épître aux Galates parle de plénitude des temps. Et donc s'il y a une plénitude des temps, c'est qu'il y a comme un temps qui précède cette plénitude. Et selon l'ordre même du développement du don de la Bible, de la parole de Dieu, on commence par la Genèse. Et donc c'est toujours important de remonter aux premières traces de cette révélation et remonter à la Genèse, remonter au commencement, au Bereshit, hein, dans le commencement, pour voir l'œuvre de Dieu et l'unique dessein d'amour bienveillant pour son peuple, pour ceux qu'il prédestine à sa gloire. Et ça, c'est notre grande espérance qu'il faut sans cesse se rappeler parce qu'on a un peu tendance à s'éparpiller et à oublier, dans le fond, l'essentiel. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il est écrit dans ces premiers mots de Bereshit, qu'on appelle la Genèse en grec ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un esprit de Dieu, pneuma, tout est où, hein, roi, Elohim en hébreu, tournoyait sur les eaux, merarefet. Il tournoyait comme on fait une imposition des mains. Vous voyez, souvent dans la liturgie byzantine, au moment où le prêtre prépare les dons, il prend un petit voile, le voile du calice, et il l'agite autour des dons, hein, comme un tournoiement au-dessus des dons pour montrer dans le fond, le mouvement du Saint-Esprit, l'activité du Saint-Esprit. Eh bien, il y a dans cette affirmation de l'Esprit qui plane sur les eaux, pour nous chrétiens, déjà l'affirmation de l'existence de la troisième personne de la Trinité, et que nous appelons très volontiers l'Esprit créateur. Et nous avons, au moment de Pentecôte, deux belles hymnes qui nous permettent de confesser notre foi dans la divinité du Saint-Esprit et en même temps de dire qu'il est créateur tout comme le Père et le Fils. Et ces deux textes sont le Veni Creator, hein, le Viens Esprit de Créateur, et Veni Sancte Spiritus, dans lequel on dit aussi qu'il est créateur. Donc il y a dans ces deux textes une affirmation très nette de la liturgie, hein, que le Saint-Esprit est créateur. Lex orandi, lex credendi, disent les pères, c'est-à-dire la loi de ce que l'on doit prier est en même temps la loi de ce que l'on doit croire. L'Esprit est créateur. Jésus est créateur, évidemment, nous le savons bien, par exemple, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, on dit que tout a été fait par lui, et quant à la Genèse, elle affirme, évidemment, d'une manière indistincte, que Dieu est créateur, et donc le Père, évidemment, à qui on doit attribuer toute l'origine de la divinité et l'origine des processions divines, puisque c'est le Père qui engendre le Fils et qui fait procéder le Saint-Esprit. Donc il y a vraiment la source de la divinité, c'est bien le Père, et on peut dire que tous les moments de l'Ancien Testament où on parle de Dieu, on parle du Père.
Donc, quand on dit « Viens, Esprit créateur, nous visiter », la demande est très, très sérieuse et très, très forte. Hein. On demande à cet Esprit qui a créé le monde de venir à l'intérieur de nous. Ce n'est pas anodin comme prière.
Oui, effectivement. Et nous comprenons mieux que le même Esprit est créateur et recréateur. On dira d'ailleurs de la même manière que la Vierge Marie est mère de Jésus, mère du Fils de Dieu et mère, dira la tradition anselmienne, mère des réalités recréée. C'est très beau. Mère des réalités recréées. Vous voyez, il y a comme une nouveauté absolue qui se passe avec le Christ, mais qui était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament. On annonçait, bien sûr, qu'on passerait un jour de l'imparfait et du caduc vers le parfait et le définitif, de la loi ancienne vers la loi nouvelle. Alors, certains disent oui, mais cette loi nouvelle est déjà marquée dans l'Ancien Testament, par exemple dans Jérémie 31-31, il y a déjà l'annonce de cette loi nouvelle. Pourquoi est-ce que vous attribuez, vous, chrétiens, cette loi nouvelle alors que ce texte est dans l'Ancien Testament? Ben, c'est tout simplement que ce texte, c'est vrai, est dans l'Ancien Testament, mais il est marqué au futur. Et après le passage de Jésus, eh bien, ce texte donné au futur devient quelque chose qui est présent. Et c'est ça qui est toute la différence, si vous voulez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous devons donc être sûrs que c'est réalisé. Voici venir des jours, vous voyez, c'est un futur, dit Jérémie 31-31, oracle du Seigneur, où je conclurai, c'est un futur, avec la maison d'Israël, une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, avec en ces jours-là, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Donc c'est bien, tout ça c'est du futur.
On lit ce thème au numéro 705 du catéchisme, c'est la promesse de l'esprit et l'esprit de la promesse qui est, semble-t-il, très importante pour nous parce qu'il est dit dans l'épître aux Romains qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qu'on a perdu à cause du péché l'image et qu'on a perdu à cause de ça, on a été privé de la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu, quand il promet l'Esprit, est-ce qu'il nous promet de nous rétablir dans la gloire de Dieu, dans cette ressemblance avec Dieu ?
Oui, certainement, il y a une prédestination à la gloire, mais qui passe par des étapes. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, comme dit saint Paul dans Romains 3, 23, mais nous demeurons à l'image de Dieu. Et les pères de l'Église ont bien noté que dans le premier chapitre de la Genèse, quand on dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, on pouvait jouer un peu sur les mots et dire que l'image, eh bien, demeurait, quelles que soient les avanies du péché originel, quelle que soit la chute, mais que la ressemblance était perdue. Et qu'il fallait donc recouvrer la ressemblance. Je vous lis le passage. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. » Et on peut traduire aussi un peu plus haut, Dieu dit « faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Donc il y a bien ces deux termes, image et ressemblance, dans le texte biblique. Et on peut, bien sûr, d'une manière, d'une exégèse critique, dire « image et ressemblance », ce sont deux synonymes, donc il n'y a pas tellement de différence. Mais les pères de l'Église ont su noter qu'il y avait quelque chose qui demeurait en nous, ils l'ont appelé image, et quelque chose encore qui n'était pas encore achevé, qui devait être acquis, ils l'ont appelé ressemblance. Je crois que c'était très intelligent, c'était une lecture théologique très intelligente, même si, bien sûr, en exégèse historique critique, on peut dire que les deux mots, image et ressemblance, sont parfaitement synonymes. Mais toujours est-il que cette gloire, eh bien, Jésus nous la promet, mais nous la promet par étapes, parce que on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu que avec beaucoup de combats, comme dit saint Paul. Vous n'entrerez dans ce royaume que suite à beaucoup de combats spirituels, et il faut comme une purification. Acquérir la ressemblance, c'est à la fois se purifier, mais atteindre finalement le but qui est la divinisation, c'est-à-dire être rendu Dieu, ou la déification, être fait Dieu, ça reste de l'ordre du créé, et cette transformation donc se fait pas à pas par la descente du Saint-Esprit, la petite graine du début qui est, je dirais, le baptême, et puis la confirmation qui vient renforcer cette naissance, ce petit arbre, cette petite pousse en nous qui grandit, et qui grandit sur l'olivier franc, sur l'olivier de la promesse, des origines du peuple d'Israël, et puis ça se déploie, et puis ça arrive jusqu'à la transfiguration dans la lumière totale, et c'est cela que nous attendons, mais à travers les épreuves, et la mort est une épreuve.
On a besoin d'un guide pour avancer. On reçoit un don extraordinaire, mais et c'est le thème du numéro 707, c'est qu'on a besoin en quelque sorte d'une règle, d'une loi pour nous guider, pour nous faire avancer. Est-ce qu'on peut associer l'esprit à la loi?
Alors oui, on doit associer l'esprit à la loi. C'est déjà l'Esprit Saint qui a donné la loi. Sur le mont Sinaï, puisque le doigt de Dieu les a comme écrits dans la pierre, et c'est le symbole du Saint-Esprit, nous l'avons vu la dernière fois. Et la loi nouvelle, eh bien, va être donnée par Jésus comme quelque chose qui va être transmis, cette bonne nouvelle, comme traduit exactement le mot « Evangelion », « bonne nouvelle » de Jésus. Jésus est la réalité de cette loi nouvelle qui n'apporte pas beaucoup, je dirais, de nouvelles prescriptions comme dans l'Ancienne Alliance, mais qui les simplifie et qui nous donne le baromètre de cette loi nouvelle qui est l'amour, qui est la charité.
Très bien, merci frère Édouard. Et je termine avec cette prière à nouveau qu'on peut redire ensemble. Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens Esprit Créateur nous visiter. Merci.